Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 23 mars 1992.
Un petit nota bene par rapport à la vérité ontologique et la vérité qu'on appelle formelle en scolastique. Je crois qu'il faudrait dire tout simplement la vérité. Qualité de notre intelligence dans le jugement. Vous savez qu'il y a toute une question qui serait intéressante du reste à traiter. À propos de certains textes de saint Thomas qui semblent indiquer une influence néoplatonicienne très marquée, qui ferait dire qu'au fond, pour saint Thomas, notre âme spirituelle était notre esprit, notre intelligence, serait un principe substantiel. Il y a eu deux livres de dominicains là-dessus et qui est évidemment, c'est intéressant comme exégèse de saint Thomas. Si je regarde l'ensemble de la pensée de saint Thomas, c'est insoutenable. Je crois qu'on peut toujours tirer d'un texte des tas de choses. Vous voyez, quand on pose des questions, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. On peut interpréter une affirmation en regardant l'ensemble de la pensée de saint Thomas. Et alors, la grande raison, c'est que saint Thomas distingue toujours la vérité, qualité de l'intelligence, de la vérité transcendantale, la ratio veri du de veritate est convertible avec l'être. Et c'est ce que la scolastique a appelé le vrai ontologique. Réalité en tant qu'elle existe est capable de déterminer l'intelligence, est intelligible. Tandis que le vrai qui qualifie notre intelligence est une relation adéquatio intellectus ad rem. Fameuse affirmation, quelques affirmations de saint Thomas qu'il faut savoir par cœur. Adéquatio, donc adéquation de l'intelligence à la réalité. Notre intelligence, en tant qu'elle connaît, est mesurée par la réalité. Si elle est mesurée par la réalité, elle n'est vraie que quand elle est conforme à cette réalité. Cette affirmation de saint Thomas est très discutée aujourd'hui parce qu'elle n'est pas du tout dans le sens de ce que dit Heidegger. Alors, faut-il juger saint Thomas à la lumière de Heidegger? Ça, c'est une autre question. Pour Heidegger, toute sa philosophie est très commandée par la vérité. Faut pas l'oublier. C'est la grandeur du reste de sa philosophie. De son ontologie fondamentale, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle. La vérité pour lui est dévoilement à l'été. Elle est dévoilement. L'été caché à l'été, ce qui est dévoilé. Et donc, la vérité pour lui n'est pas qualité de l'intelligence, mais elle est l'être en acte qui se dévoile. L'être en acte qui se dévoile, c'est l'être en tant qu'il est capable d'actuer l'intelligence. Donc c'est le vrai ontologique. Heidegger a des passages intéressants là-dessus. C'est ce qui s'intéresse à Heidegger, c'est sûrement par là qu'on peut le mieux confronter Heidegger et Thomas d'Aquin. C'est la crête où il y a un point commun et un point divergent. C'est toujours comme ça qu'il faut comparer. Hein. Le point commun, c'est cette vérité à l'été. C'est-à-dire que le vrai, c'est l'être en tant qu'il est capable de déterminer l'intelligence. Donc le vrai dévoile ce qui est. La différence, c'est que pour saint Thomas, il n'y a pas d'opposition et d'exclusion entre cette vérité ontologique et la vérité qui qualifie l'intelligence. Puisque la vérité qui qualifie l'intelligence est relative à cette autre vérité. Elle dépend de cette autre vérité. Tandis que pour Heidegger, il ne faut pas en parler. C'est une déviation. Pour lui, la vérité qui qualifie l'intelligence, c'est une déviation de la philosophie grecque à partir de Platon dans le mythe de la caverne. Il y a une interprétation très curieuse là-dessus. La première partie du mythe de la caverne, qui est dans le dialogue de la République. La première partie du mythe de la caverne, c'est l'ancienne vision de la vérité, celle que prend Heidegger. Et la seconde partie de l'interprétation du mythe de la caverne oriente vers ce qu'Aristote prendra ensuite, vérité, adéquation de l'intelligence par rapport à la réalité. Ça, c'est une petite question heideggerienne, intéressante, puisque Heidegger joue un certain rôle. Et quand même, parmi les philosophes modernes, c'est sûrement celui qui a le plus essayé de comprendre ce qu'est la réalité, ce qu'est l'être. Pour saint Thomas, la vérité, adéquation de l'intelligence avec la réalité, est relative à la réalité existante. Adéquatio intellectus ad rem. Alors, si je prends la qualité de l'intelligence, parfaite, elle est vraie. Une intelligence qui n'est pas vraie n'est pas parfaite. Si donc je prends cette définition de saint Thomas comme je crois que saint Thomas l'a maintenue jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas changé du tout là-dessus. À partir du De Veritate, je vois par le fait même que pour saint Thomas, l'intelligence est toute relative à ce qui est. Et je peux confirmer cela quand saint Thomas dit « Primo cadit intellectus ens ». Ce qui veut dire que l'intelligence est toute relative à ce qui est. Ce qui du reste est du pur aristotélisme. Aristote dit ça dans son commentaire du Péripsuchès. si l'intelligence est toute relative à la réalité, elle est donc seconde. Si elle est seconde, elle ne peut pas être première. Par le fait même, elle ne peut pas être substance. C'est une simplicité. Comme exégèse, ça demain, vous voyez. Je dis ça, c'est parce que vous rencontrerez cette objection. Elle est séduisante. C'est du néoplatonisme. Le néoplatonisme est toujours séduisant. Alors, il faut se laisser attirer par la séduction et ne pas tomber dedans. C'est comme le petit gosse qui voit des fleurs de nénuphar sur le lac. Il les regarde tellement qu'il ne voit plus que c'est un lac. Et puis il va cueillir la fleur parce qu'il en est séduit et puis dégringole dans le lac. C'est exactement ça la séduction. Il faut garder toujours cette image. Belle fleur de nénuphar sur un lac. Oh là là. Et on voit plus la différence entre la terre et le lac. Le lac, vous voyez bien, c'est l'intelligence. Hein. Et la terre, c'est la substance. Et alors on se laisse séduire. Et on croit que la fleur du nénuphar, c'est encore la terre substantielle. La terre qui donne la sécurité. Mais ce n'est pas l'intelligence qui donne la sécurité dernière. C'est la terre. La terre au large flanc. La terre, c'est-à-dire la réalité sensible pour nous. La réalité existante. Ce que j'expérimente en premier lieu. Je n'expérimente pas en premier lieu le cogito. C'est pas le cogito qui me donne la stabilité. Parce que mon cogito n'est pas le même que le voisin. C'est toujours à l'égard du cogito qu'on discute. Hein. Mon opinion, mon cogito, qui n'est pas celui du voisin. Tandis que la terre, elle est là. C'est très intéressant de voir ça, parce que ça montre tout de suite que la vérité formelle distincte de la vérité ontologique montre tout de suite l'intelligence comme telle ne peut pas être un principe substantiel. Pour moi, pour l'homme, ne peut être qu'une puissance, source d'activités qui ont un mode intentionnel. Et donc, d'une activité qui n'est pas première dans l'ordre de l'être. Et donc, tout ce que nous avons essayé de comprendre, ces deux derniers cours, sur la distinction du vrai ontologique, du vrai, la ratio veri transcendantale, et de la vérité qui qualifie l'intelligence, est capital. Pour avoir le sens du réalisme. C'est normal que ce soit à l'égard de ce problème de la vérité que le réalisme et le néoplatonisme se rencontrent et s'opposent. Et pour nous, modernes, c'est la comparaison entre la pensée de saint Thomas et celle de Heidegger, la pensée d'Aristote et celle de Heidegger. Alors, je crois avoir suffisamment précisé la dernière fois cette chose très intéressante de ces deux modes de l'acte à l'intérieur même du problème de la vérité. Ce que vous ne l'avez pas pour laisser. mais c'est insubstantiel quand il s'agit de ce second mode de l'acte qui est la vérité. Il y a la vérité ontologique et la vérité qui qualifie l'intelligence. Vous avez donc deux actes, deux modalités d'acte. Vous en avez une qui se ramène directement à l'essai. Le vrai ontologique implique l'essai. Et l'autre qui se greffe ou qui naît à partir de l'opération intellectuelle, le jugement. Le vrai formel naît dans l'acte du jugement. Et il a par le fait même une dépendance à l'égard de cette manière d'exister du jugement qui existe selon un mode intentionnel. C'est pour ça que si vous êtes en présence d'un jugement qui s'identifie avec la réalité lorsqu'il s'agit de l'être premier, vérité ontologique et vérité formelle s'identifient. Je crois que c'est suffisamment net, mais il faut y réfléchir beaucoup là-dessus. C'est sûrement un point extrêmement important où, vous voyez, critique et métaphysique se rejoignent aussi. Quand on dit par exemple que la critique est antérieure à la métaphysique, au fond, c'est parce qu'on met le vrai formel avant le vrai ontologique. Il y a quelque chose de vrai et il y a quelque chose de faux. Le quelque chose de vrai, c'est que le vrai formel, qualité de l'intelligence, il est plus explicite que le vrai ontologique. C'est ça qui est très très curieux. C'est là la séduction du primat de l'intelligence sur l'être. Connaître le petit caillou, c'est plus noble que d'être un petit caillou. C'est évident. Connaître le petit caillou et être vrai en connaissant le petit caillou, c'est quand même une qualité plus grande que le petit caillou. C'est ce que me disait, ce que je vous avais affirmé, ce professeur de physique à l'université de Lausanne. Je dis toujours à mes étudiants que ma science physique n'est pas ce que j'étudie en physique. Et que ma science physique a une noblesse que n'a pas l'objet que j'étudie en physique. C'est très juste. Alors voyez, si je n'étudie que la physique, je dirais que ma connaissance est plus noble que ce que j'étudie. Donc elle a une primauté. Le mathématicien peut dire la même chose. Sa connaissance mathématique a une noblesse plus grande que l'être mathématique. Puisque l'être mathématique reste lié à la quantité au divisible. Et la connaissance mathématique mesure son être. Et c'est là où, de fait, on comprend très bien que dans notre monde d'aujourd'hui, où les mathématiques règnent par toutes les sciences dépendantes d'elles, la grande tentation permanente, c'est de faire passer devant la pensée par rapport à l'être. On est pris par la séduction de la connaissance et de la noblesse de la connaissance. Vous voyez ça chez Descartes, la séduction du modo geometrico, une démonstration modo geometrico. Vous voyez ça chez Kant, la séduction de la physique. Vous voyez ça chez pratiquement presque tous les modernes, la séduction de la connaissance scientifique. scientifique mesure le réel. Ce que la science dit est vrai. Et c'est le réel. Ce que la biologie dit, c'est vrai. Et c'est le réel. Je vais donc établir une éthique sur les progrès de la science. Mais tout se tient. Il faut toujours saisir le point de départ de l'erreur. Parce que si vous mettez le petit doigt dedans, c'est fini. Et c'est très curieux. Ça repose en premier lieu sur le lien entre le vrai ontologique et le vrai problème. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est terrible d'une certaine manière. Si je n'ai pas saisi ce que c'est que l'être en acte, je ne peux pas répondre. Je m'enferme dans un primat de la critique. Et je ne peux sortir de ce primat de la critique en saisissant le primat de l'être en acte, qui est d'abord l'essai, qui est d'abord l'exister. Ensuite, le vrai ontologique. Parce qu'il faut reconnaître que le vrai qualité de mon intelligence, formellement, je dis bien formellement, est plus noble que le vrai ontologique du monde physique dans lequel je suis, qui me conditionne. Je suis conditionné par ce monde physique. Ma première expérience a été ce monde physique. C'est évident, première expérience. Ça a été toucher la terre, le sable. Ça a été toucher les petites réalités mécaniques. C'était ça ma première expérience. Alors, quand je suis fatigué, ce qui est premier génétiquement détermine ma connaissance. Il ne faut jamais oublier ça. On est un monde fatigué. Et toute la grande... C'est très intéressant à voir cette grande découverte de la science qui s'est faite à l'intérieur d'une tradition théologique et métaphysique. C'est vrai. Veut dominer dans notre monde moderne. Et c'est le primat de la critique qui permet de faire passer la science avant le jugement d'existence. Parce que la vérité formelle a une noblesse plus grande que les réalités physiques. Ce que je reconnais. Par le fait même, la critique a une noblesse plus grande que le jugement d'existence à l'égard de moi-même, parce que mon jugement d'existence implique toujours le corps. Mon jugement d'existence implique le corps. Je suis, j'existe. J'existe dans mon corps. Et je touche mon corps, tandis que je ne touche pas mon âme, si ce n'est si je réfléchis sur l'intériorité de mon âme, et alors, au fond, pour découvrir la primauté de mon âme sur mon corps, j'ai la tentation d'exalter l'intelligence pour dire que mon intelligence est substantielle. Mais en faisant ça, je quitte le vrai réalisme et je m'incline vers le néoplatonisme. C'est une tentation très subtile, ça. D'exalter l'esprit. C'est très vrai que c'est très beau d'exalter l'esprit. On est tous d'accord qu'il faut exalter l'esprit. Mais comment l'exalter ? Il faut l'exalter dans la réalité. Il faut l'exalter en respectant la réalité. Il ne s'agit pas de l'exalter d'une manière purement imaginative. Parce que ça vous retombe sur le dos, ça. Je crois que c'est là qu'il faut être très très attentif. La critique regarde Or, aujourd'hui, des quantités de thomistes disent on ne peut pas dépasser Kant, on ne peut pas dépasser Hegel, on ne peut critiquer ni Hegel ni Kant. Ça fait partie, vous voyez, d'une certaine vision de l'évolution de la pensée. Comme si nécessairement naître au XXe siècle, c'est être plus intelligent que naître au Moyen Âge. Ce qui pour moi n'est pas absolument sûr. Tous ceux qui sont du XXe siècle sont-ils plus intelligents que ceux du Moyen Âge? Je n'en sais rien. Mais je ne peux pas l'affirmer. Peut-être qu'il y a des gens plus intelligents. Peut-être. Mais ce n'est pas parce que je nais au XXe siècle que je suis plus intelligent. Selon l'évolution, je dois l'être. Nécessairement. Autrement, je suis un témoin attardé d'un âge révolu. Donc, on est rétro. C'est ça que ça veut dire. C'est un témoin d'un âge complètement révolu. Alors, voyez, ça, c'est soumettre l'intelligence à la dimension temps. Le temps mesure ce qui est mu. C'est donc rester uniquement dans l'ordre du devenir. Si je demeure uniquement dans l'ordre du devenir, alors évidemment, j'ai un avantage d'être au XXe siècle par rapport au Moyen-Âge. Mais je ne peux pas faire le raisonnement inverse aussi. Sans être du Moyen-Âge, c'est nécessairement être plus parfait que d'être au XXe siècle. Pas du tout. La question temps, la question culture et milieu culturel est seconde. C'est jamais premier. C'est le problème de l'adaptation. S'adapter, c'est jamais premier. Il faut avoir quelque chose pour s'adapter. Si on n'a rien, pas de pareil. Tout coule. Je coule pas pour m'adapter. Tandis que si vous avez saisi la vérité, alors à ce moment-là, vous êtes libre par rapport au conditionnement, par rapport au milieu dans lequel vous vivez, par rapport aux diverses cultures. Vous êtes libre et vous pouvez vous adapter sans perdre la vérité que vous connaissez, que vous portez en vous. Tandis que si vous n'avez pas la vérité, vous êtes esclave du temps, du conditionnement, du milieu. Vous avez fait de la disposition une détermination. Et tout ça, c'est le problème du vrai ontologique et du vrai formel. Et je voudrais que vous sentiez ça comme quelque chose de très capital auquel il faut revenir tout le temps. C'est difficile, c'est sûr, puisqu'on est là, sur une crête. L'être en acte. L'être en acte pour l'esprit, pour l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'être en acte pour mon intelligence? Posez-vous la question comme ça. Il faut la poser tout le temps. Qu'est-ce que c'est que l'être en acte pour mon intelligence? L'être en acte pour mon intelligence, c'est saisir la vérité. C'est être vrai. Vrai dans ma connaissance. C'est-à-dire dire ce qui est, ce qui existe. C'est donc être relatif à ce qui existe. Certains diront, être vrai, pour mon intelligence, c'est être dans le progrès. C'est être prophète. C'est dire ce qui va arriver demain. Vous voyez, ça c'est merveilleux. Parce que je me libère de la réalité et c'est ce que je dis qui est vrai. On se fait prophète. Or, normalement, on ne se fait pas prophète. J'aurais pu dire au début de l'année, parmi vous, il y en a quelques-uns quand même qui sont des prophètes au point de vue de l'intelligence. Alors tout ce que vous direz, c'est la vérité. La vérité se mesure alors au dire du prophète. C'est très bien quand il s'agit d'un prophète mené par l'Esprit Saint. Parce que la vérité est relative à l'Esprit Saint. À ce que dit l'Esprit Saint. Tandis que que si vous n'êtes pas mû par l'Esprit Saint, c'est ce que vous dites qui devient mesure de la vérité. Et ça peut être très imaginatif. Oui. C'est une petite clé, vous savez ce que je vous disais, c'est une clé, cette distinction du vrai ontologique et du vrai formel. Et c'est la clé qui permet de hiérarchiser les sciences.
C'est un feu d'artifice.
Non, parce que nous sommes dans un monde mathématique, un monde scientifique. Mais voyez la différence entre la philosophie et les mathématiques, le vrai ontologique, le vrai formel. La philosophie maintient les deux. Elle maintient les deux. Je ne dis pas que je m'enferme dans le vrai ontologique. Je serai un positiviste premier de premier ordre. Elle maintient les deux. Et elle comprend comment le vrai ontologique a quelque chose de plus explicite, de plus actuel que le vrai ontologique. Et ce qu'elle a de plus actuel reste formel. Vous voyez, c'est la forme qui va dépasser l'être, l'exister. Vous allez dire, c'est monstrueux. C'est un monstre que l'intelligence fait. C'est son domaine. Ça peut être monstrueux. Vivre dans un monde mathématique, ça peut être monstrueux. Pour l'homme, peut-être un Goliath étonnant. Il dit, c'est moi qui domine. Et c'est vrai que c'est, ça peut aller très loin. Et je comprends que quelquefois, c'est pas commode pour un mathématicien pris par cet aspect formel, poussé à l'extrême. C'est pas commode la petitesse de la foi. Quel jugement d'existence. Oui. La foi, au point de vue formel, c'est pas très fameux. C'est l'exister. C'est l'exister. J'adhère. Tu existes et je ne comprends rien. C'est ça la foi. On a fait un cours de métaphysique. C'est sans doute très beau, mais je n'y comprends rien. Mais j'y adhère. Parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. Hein. On s'embarque comme ça dans un avion. J'y comprends rien comment ça marche. Il me transporte, j'ai le sentiment, jusqu'au moment où il y a un accident. Alors là, je suis complètement dedans. Et au fond, on fait ça constamment. Hein. Le hiatus entre le formel et l'existé. Une fois que vous avez saisi ça dans certains domaines, au bout d'un certain temps, vous comprenez qu'est-ce que c'est que la critique de la science. Et ça se fonde sur la distinction du vrai ontologique et du vrai formel. Mais je secoue ça dans tous les sens pour que vous arriviez à comprendre. Parce que c'est une distinction analogique, c'est pas du tout univoque. Le vrai formel, le vrai ontologique de l'artiste et du philosophe n'est pas le même. Pour l'artiste, c'est la matière qu'il travaille. Est-ce que je peux faire n'importe quoi avec n'importe quoi? Aujourd'hui, on croit pouvoir le faire. Grâce au progrès de la technique, grâce au progrès de la science, on peut avoir des matières plastiques. Et grâce à ça, on peut faire n'importe quoi. Est-ce qu'à partir de là, l'art demeure? Vous voyez? Situation limite de l'art. Et encore, c'est la vérité formelle qui mesure la vérité ontologique. On est tenté de ça aujourd'hui. C'est la très très grande tentation de l'art. Et il y a une séduction, hein. Une séduction prodigieuse. Quand vous voyez tout ce qu'on peut faire comme forme aujourd'hui, quand vous regardez les autoroutes, c'est très séduisant. Et c'est beau. C'est beau. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est vrai techniquement tant que ça casse pas. Le jour où ça casse, ça prouve qu'il y avait une erreur. Quand le barrage de Fréjus a éclaté, il y avait une erreur. à deux, c'est là où la situation est privilégiée. Parce que le mathématicien a un sens étonnant de la vérité formelle. Oui, c'est la bulle de savon. Oh, j'ai énormément. Vous êtes parti d'un rien du tout. Puis c'est devenu énorme. Puis ça, ta beauté, ça reflète toutes les mots. C'est magnifique. Mais ne touchez pas. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez, on touche tout notre monde aujourd'hui quand on essaie de comprendre ça. Et on comprend que pratiquement le monde d'aujourd'hui touche constamment une situation limite. Parce qu'on va toucher, tout va éclater. On est comme ça actuellement. Alors, tant que ça tient, ça tient. Mais on ne sait plus très bien où on va. Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le vrai, l'être en acte qui est le bien. À côté de mon intelligence, il y a l'amour spirituel. L'amour spirituel, je l'ai analysé en éthique, l'amour d'amitié, l'adoration, la contemplation. Je l'ai étudié en philosophie du vivant, la capacité d'aimer, la volonté. Je peux maintenant essayer, en philosophie première, dans la lumière de l'être en acte, comprendre comment mon esprit implique intelligence et volonté. Alors pour certains, l'intelligence est beaucoup plus développée. Pour d'autres, c'est la volonté qui est beaucoup plus développée. Et dans la volonté, il y a deux développements. Ça, je l'ai vu en philosophie du vivant. Il y a deux développements. Il y a un développement affectif, qui est premier. Il y a un développement d'efficacité, qui est second. Et dans le langage français actuel, il faut le souligner. Je ne sais pas si dans toutes les langues c'est comme ça. Ce serait intéressant. Ce serait une manière très intéressante d'étudier les langues, de voir la différence entre l'acte volontaire affectif et l'acte volontaire effectif. Dans le langage français actuel, un homme de volonté, c'est un homme d'efficacité. Et c'est l'efficacité qui mesure la volonté. Dans le langage français, depuis Pascal, Pascal a dit ça admirablement. Et ça, c'est en dépendance de Descartes. Et Descartes est en dépendance d'Occam. Donc c'est vieux, vous voyez. C'est pas français, c'est anglais. Ça vient de l'autre côté. Parce que Occam, évidemment, pour lui, la volonté est premièrement efficace. Elle est secondairement grâce à la passion. C'est la passion qui sauve l'affectivité. Le monde des sentiments. Tout le romantisme. Tout le rococo. C'est l'affectivité. L'affectivité débordante. On comprend très bien cette affectivité débordante qui n'est plus spirituelle, qui est passionnelle. Passionnelle au grand sens du mot. Hein. Ça peut être très beau. Point de vue artistique, la passion c'est toujours beau artistiquement. Vous savez, la volonté d'efficacité au point de vue artistique, hein, pas grand chose. Tandis que la passion, oh là là, c'est merveilleux. Le drame nietzschéen, portez en nous le drame. Et un artiste ne vit que s'il y a du drame. S'il n'y a plus de drame, qu'est-ce qu'il fiche là ? Kazav ne supporte pas cela. La parole de Merleau-Ponty. Je n'aime pas te parler aux catholiques parce qu'ils savent. Un philosophe n'aime pas te parler à un croyant qui n'accepte pas d'être philosophe parce qu'il impose la vérité. La vérité, c'est ça. La foi me le dit. Ah oui, attention, soyez intelligent. La foi ne supprime pas l'intelligence. Supprime l'intelligence, vous tombez dans le fidéisme et le fidéisme conduit à l'athéisme. Directement. Tous les petits fils des fidéistes sont athées. Pourquoi dans des familles très traditionnelles, fidéistes, très traditionnelles, fidéistes, les petits fils sont athées? Mais vous voyez, c'est pas étonnant. Ils ont oublié l'intelligence. Et les petits fils veulent rattraper l'intelligence. Alors, il faut saisir cette naissance du volontaire, qui est cet amour spirituel qui se porte sur la personne humaine, sur ce qu'il y a de plus spirituel dans la personne humaine. Une personne humaine peut m'attirer en tant qu'elle est humaine, donc en tant qu'elle est spirituelle. Et elle m'attire dans tout ce qu'elle est. C'est le bien spirituel. Et ce bien spirituel sera parfaitement explicité dans l'amour d'amitié. Pour moi, c'est parfaitement explicité dans l'amour d'amitié. Où j'aime un ami et je dis c'est mon ami. Alors, je dois essayer de comprendre ce qu'est le bien. Et le bien spirituel et le bien tout court. La ratio boni, la raison de bien, n'implique pas explicitement le bien spirituel. C'est le bien au niveau fondamental et premier, qui est le bien tout court. Ceci est bon. Alors, je verrai, évidemment, une diversité de bonté. Et je verrai que le bien n'est parfaitement explicité que dans le bien spirituel, la personne humaine. Et dans la personne humaine, j'aime tout dans une personne humaine. J'aime tout. J'aime son corps, j'aime sa sensibilité, j'aime son imagination, j'aime sa figure, et j'aime son esprit. Je m'aperçois ça tout de suite dans l'expérience de l'amour d'amitié. Je vois tout de suite, et c'est ça qui est très important à souligner, que le bien, c'est l'être en acte, capable d'attirer une autre personne, capable de susciter un amour. Capable d'éveiller en moi un amour spirituel. Alors voyez, je retrouve, et il faudra bien préciser, là encore, parce que je suis en face de l'esprit et de l'acte pour l'esprit, je distingue là encore l'amour spirituel et le bien. Comme j'ai distingué la vérité formelle et le vrai ontologique.